Et pour aborder avec nous ce soir sur BFM Radio ce thème des enjeux sur la dématérialisation des documents, je vais essayer de le dire correctement pendant toute l'émission. Enfin, je le répète plusieurs fois, dématérialisation. Donc je reçois trois invités. Notre premier invité, justement, et nous allons revenir sur la définition et les concepts de la dématérialisation. Il nous éclairera justement sur l'évolution de ce marché, sur ses perspectives. Il est président de la FEDISA, c'est la Fédération de l'ILM. Alors on saura ce que ça veut dire tout à l'heure, le cycle de vie de l'information, du stockage et de l'archivage. Donc Jean-Marc Riedge, bonsoir.
Bonsoir.
Avec notre deuxième invité, nous allons aborder l'un des thèmes forts liés à la dématérialisation. Il conduit des études qui visent à mesurer les impacts environnementaux des produits, des services. Il nous fera un état de l'art sur les connaissances environnementales sur la dématérialisation. Il est manager chez Bio Intelligence Service. Yannick Le Guern, bonsoir.
Bonsoir.
Et puis, difficile de parler dématérialisation sans parler de l'aspect juridique. Nous aurons ce soir le point de vue d'un avocat. Il va nous dire pourquoi il y a plus de réalisations concrètes et de décisions judiciaires. Il est avocat à la Cour d'appel de Paris, en charge du département dématérialisation et archivage électronique pour le cabinet Alamed Soussan. Philippe Ballet, bonsoir.
Bonsoir.
Pour le coup de pouce à une start-up cette semaine, nous aurons en ligne Élise Barbet, aura en ligne Hervé Pro, qui est président de Simeo. C'est une start-up spécialisée dans la gestion d'identité. Voilà, je vais y arriver. On va parler de sécurité. Et puis Élise Barbet va aussi nous parler dans sa chronique des effets négatifs de la dématérialisation. Et oui, il y en a et on va les découvrir tout à l'heure dans l'émission. Et sans oublier Yann Serra, journaliste chez Zéro Informatique, avec qui nous allons démarrer dans un instant un premier tour du monde de l'actualité high-tech. Et nous démarrons tout de suite notre émission 01 Business avec vous, Yann Serra. Vous êtes journaliste à la rédaction de 01 Informatique. Alors Yann, c'est un premier tour du monde de la semaine, de l'actualité high-tech. Alors HP rachète 3Com ou pas?
Oui, tout à fait.
Ça avec impatience.
HP rachète 3Com, 2,7 milliards de dollars. C'est le prix qu'a payé HP, enfin que HP va payer, donc HP, le géant des serveurs, des PC, des imprimantes, pour racheter 3Com, le fabricant bien connu des matériaux réseau. Avec ce rachat et avec les quelques produits réseau qu'il avait déjà à son catalogue, HP devient ainsi le numéro 2 du marché des routeurs et des cartes Ethernet, donc avec 19,4% de part en volume, et juste derrière Cisco qui lui a 28% de part de marché.
Et qui lui-même était venu bien concurrencer HP sur la partie data center.
C'est ça. Alors, pour bien comprendre l'enjeu de ce rachat,
chaque coup est rendu dans cette industrie.
C'est pas tant que HP va coloniser les réseaux, mais plutôt que la nouvelle tendance chez les fournisseurs, c'est d'avoir une offre la plus large possible. Et or, on se souvient justement que Cisco, jusqu'à leur numéro 1 des réseaux, s'est mis cette année à vendre aussi des serveurs, comme HP. Et Cisco a même passé un accord il y a 2 semaines avec EMC, le numéro 1 des baies de stockage, pour construire ensemble les prochaines infrastructures, toutes virtualisées et toutes en cloud computing des futurs data centers.
Donc en gros, si on veut se mettre à la place d'une entreprise qui entend tous ses rachats, c'est avoir un guichet unique, un fournisseur unique qui va tout offrir, serveurs, stockage, réseau, pas service.
Tout à fait, parce que je vous le rappelle, pour des raisons d'interopérabilité, il ne pourra y avoir qu'une seule technologie demain pour fabriquer les futurs centres de données en cloud computing. Donc la course est lancée, et d'ailleurs pas plus tard que ce matin, encore une fois, Fujitsu et NetApp ont à leur tour annoncé que leurs serveurs et leurs solutions de stockage auront désormais une architecture commune.
Voilà, alors on va rester dans l'architecture informatique, c'est Intel et AMD qui enterrent enfin, on va dire enfin, parce que ça fait des années et des années qu'ils, vraiment à coup de procès, de batailles de brevets, ils se sont piqués des ingénieurs, enfin voilà. Et là ils enterrent Intel et AMD.
Ils enterrent l'âge de guerre.
L'âge de guerre, enfin. Mais pas à n'importe quel prix. Hein.
C'est ça, les deux fabricants de processeurs pour PC et serveurs ont signé un pacte dans lequel ils s'engagent à ne pas s'attaquer en justice l'un l'autre pour au moins les 5 années à venir. Alors, c'est-à-dire qu'Intel s'engage à ne pas empêcher AMD de continuer à fabriquer des clones de ses Xeon.
Mais surtout,
ça veut dire qu'AMD retire toutes ses plaintes en Europe, aux États-Unis et au Japon, dans lesquels il accusait Intel de pratiques anticoncurrentielles. Et alors ça, c'est un peu fort de café, je dois vous le dire, Frédéric, parce que cet accord arrive comme par hasard une semaine après la révélation de courriers échangés entre Intel et Dell, et qui prouve qu'Intel avait autrefois versé des pots de vin aux fabricants d'ordinateurs pour qu'ils n'aillent pas se fournir chez AMD.
Donc ils ont peur de payer un peu cher.
Le procès a justement commencé aux USA, et alors en Europe, Intel a déjà été condamné à une amende de 1 milliard de dollars, amende qu'il n'a d'ailleurs pas encore payée puisqu'il fait appel. Alors, vous allez me dire, pourquoi AMD a-t-il retiré toutes ses plaintes ? Officiellement, juste pour ne pas aggraver le marché en situation de crise. Mais officieusement, apprenez qu'Intel vient, comme par hasard, de lui signer un chèque de 1,25 milliard de dollars.
Ça fait cher l'âge de guerre, quand même. Hein.
C'est ça.
Alors, on reste toujours dans l'univers des machines, des serveurs. C'est le fameux top 500. C'est un grand, pour expliquer aux auditeurs de BFM Radio, c'est un classement international de tous les gros supercalculateurs. On appelle ça le top 500. Et IBM, qui était l'historique premier.
Depuis des années.
Il avait son nom gravé sur la première marche, et puis là, il vient de se faire dépasser.
Eh bah oui, tout à fait, c'était pas arrivé depuis des années. Donc IBM a perdu sa première place dans le classement semestriel des 500 ordinateurs les plus puissants de la planète. Donc c'est-à-dire des supercalculateurs. Cette fois, c'est son concurrent Cray, dont on n'avait quasiment plus entendu parler depuis les années 80, qui gagne. Son ordinateur XT5 Jaguar parvient à battre tous les records de vitesse en exécutant, tenez-vous bien, 1,75 million de milliards d'opérations à la seconde. Et l'affront ultime pour IBM, c'est que cette machine parvient à battre tous les records avec des composants standards, en l'occurrence des processeurs AMD qu'on trouve dans les PC de Monsieur Tout-le-Monde, alors que la machine d'IBM utilise des processeurs bien particuliers, à façon. Alors, sachez qu'IBM est tout de même numéro 2, que l'ordinateur le plus puissant d'Europe, qui est aussi un IBM d'ailleurs, est numéro 4, et que l'ordinateur le plus puissant en France, qui est de marque Silicon Graphics et qui appartient à l'enseignement supérieur, est lui 28e.
Et puis on a Bull aussi, qui doit être dans les 15 premiers aussi, mais voilà, sur un en mixant du Intel, enfin voilà.
Tout à fait.
C'est pas que Bull tout seul. Alors, on reste dans les supercalculateurs, mais là, dans les mini supercalculateurs. On est très, très informatique.
C'est pour bien commencer
cette semaine, Yann.
Alors, sachez que dorénavant, on peut, toujours donc dans ce domaine de la haute performance, on peut avoir une puissance de près de 8000 milliards d'opérations à la seconde dans un simple serveur 4U.
Alors pour les auditeurs de BFM, ce serveur 4U.
4U, eh bien écoutez, c'est une boîte à pizza qui est à peu près grosse de 15 cm.
Voilà.
Épaisse de 15 cm, à peu près. Donc c'est l'américain Colfax qui a inventé ça, outre-Atlantique, et c'est Cary Systems qui le vend en France. L'originalité, c'est que pour obtenir une telle puissance, la machine est équipée non pas de plein de processeurs, mais de 8 cartes graphiques Nvidia. Et alors, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais le phénomène se confirme. On peut tout à fait utiliser des cartes graphiques pour exécuter certaines applications plus rapidement que sur des serveurs conventionnels. Et pas que des applications multimédia ou scientifiques.
On en parle à la BNP, on en parle dans les banques.
Mais évidemment, la BNP l'utilise pour ses applications financières.
Alors, accélérer les applications, il y en a d'autres qui accélèrent le web, c'est Google.
C'est Google, et voilà, Google a un projet pour accélérer le web. Ça s'appelle Speedy. Et
ça s'écrit S-P-D-Y. Hein.
C'est ça, mais ça se prononce Speedy. Et c'est un tout nouveau protocole qui s'ajoute donc au protocole HTTP qu'on connaît bien. Pour rendre la lecture des pages 55% plus rapide. Alors en fait, l'innovation, c'est que Speedy, contrairement au HTTP, formate les données selon les capacités du réseau. Du coup, les pages sont compressées, découpées pour être exécutées en parallèle, et donc ça va plus vite. Alors pour l'heure, c'est quelque chose de très expérimental, mais on lit bien là la volonté de Google de révolutionner jusqu'au fondement d'Internet.
Oui, parce que là, on rentre vraiment dans le cœur des technologies. Oui. Alors d'autres, cette semaine se tient aux États-Unis la PDC. Alors pour les avertis, c'est la grande conférence pour les développeurs Microsoft, et puis on s'attendait à des annonces d'Azure. On nous avait déjà annoncé que ça allait peut-être être retardé, donc Azure, c'est l'offre de cloud computing de Microsoft, et puis en effet, c'est toujours pas disponible.
Et non, en effet, Microsoft a confirmé son Windows Azure, qui était donc censé être lancé là maintenant lors de la PDC, eh bien n'est pas disponible. Il ne sera disponible finalement qu'à partir du 1er janvier. Sachez d'ailleurs que les clients auront droit à un mois gratuit pour évaluer leur consommation. En revanche, Microsoft a profité de la conférence PDC pour annoncer que Windows Azure aura de nouvelles fonctions. Sont notamment prévues la possibilité d'exécuter sur le cloud des machines virtuelles complètes de Windows, alors comme le fait déjà Amazon, la possibilité d'exécuter des applications Java, concurrent de Windows, ou encore la présence d'un outil AppFabric qui permet de synchroniser les applications
donc ça vaut le coup
entre
d'attendre.
Les serveurs locaux et en ligne.
Et les transitions sont toutes faites dans les news cette semaine. Yann Serra de Zéro Informatique, c'est que la news suivante, c'est Windows 7 qui a connu sa première faille de sécurité.
Oui, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que le tout dernier
quand
système...
Quand même, ça fait quoi quelques semaines quand même.
Disons que pour les professionnels, ça fait quelques semaines, mais pour le grand public, c'est une poignée de semaines. Mm-hmm. Voilà. Donc il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que le tout dernier système de Microsoft puisse être attaqué par des pirates. En l'occurrence, la faille découverte par un chercheur canadien permet de faire planter à distance votre Windows 7 dès lors que vous partagez en réseau votre disque dur ou votre imprimante. Or, on se souvient que c'est exactement le même problème qu'avait Vista. Non seulement Microsoft n'est pas
Vista qui était le système, le prédécesseur.
Tout à fait, le prédécesseur de Windows 7. Et donc, c'est toujours le même problème. Microsoft n'est toujours pas parvenu à le résoudre.
Eh bien, merci Yann Serra, grand reporter à la rédaction de Zéro Informatique, pour ce tour du monde de l'actualité high-tech. On se retrouve tout de suite sur BFM Radio pour la suite de notre émission qui porte aujourd'hui sur la dématérialisation. Nous démarrons tout de suite notre débat sur les enjeux de la dématérialisation de documents avec vous, Jean-Marc Rietsch. Vous êtes, je l'ai dit, président de la FEDISA, la Fédération de l'ILM, du stockage, de l'archivage. Alors, nous avons invité sur BFM Radio aujourd'hui 3 experts sur la dématérialisation. Donc, vous-même, pour la partie, on va parler de technologie, des concepts, du marché, des liens avec l'archivage, le stockage. On a aussi un spécialiste de l'environnement et puis un juriste. Et il nous manque à la limite un utilisateur d'entreprise pour avoir la panoplie complète de tous les acteurs. Là, vous pensez que là, autour de la table, on a tous les acteurs qui sont liés aujourd'hui à la dématérialisation d'entreprise, Jean-Marc Hedge?
Je pense qu'on a, les principaux acteurs. Et comme vous le dites très justement, c'est dommage qu'on n'ait pas un utilisateur. Mais ceci dit, bon, je pourrais prendre des exemples que je connais bien.
Alors, deux mots sur la FEDISA. Donc, j'ai dit que c'était l'ILM. ILM, c'est le cycle de vie de l'information pour nos éditeurs de BFM Radio. Leur expliquer un peu tout ça.
Clairement, FEDISA, donc ILM comme Information Lifecycle Management, donc c'est la nécessité de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie de l'information lorsque l'on parle de dématérialisation et lorsque l'on parle d'archivage électronique. Ce qu'on a trop souvent tendance à oublier d'ailleurs.
Et votre fédération regroupe des acteurs, des constructeurs, enfin voilà.
Donc notre fédération a été clairement créée pour développer le plus rapidement possible le marché de la dématérialisation et s'oriente essentiellement dans un premier temps vis-à-vis des utilisateurs, pour donner un maximum de visibilité et leur expliquer qu'effectivement la dématérialisation, je dirais, c'est un enjeu. C'est pas un phénomène de mode, c'est un enjeu, c'est des décisions stratégiques, et pour effectivement leur permettre d'avoir les bonnes informations au bon moment et surtout leur faire comprendre que la principale difficulté en matière de dématérialisation, c'est justement d'avoir à traiter simultanément de la technique, du juridique et l'organisationnel.
Voilà, et bien on va parler de tout ça dans cette émission. C'est une bonne entrée en matière. Je me tourne vers vous, Yannick Le Guern. Vous êtes manager chez Biointelligence Service. On parlera un peu plus tard de votre entreprise, mais on va beaucoup parler d'environnement aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est ce côté green, développement durable, qui peut un peu vraiment donner un coup de fouet à cette partie dématérialisation, Yannick Le Guern?
Oui, effectivement, l'aspect environnemental peut pousser à, enfin en tout cas peut favoriser la mise en place de systèmes de dématérialisation. Faut-il bien s'assurer que ce système-là apportera un bénéfice environnemental par rapport aux solutions traditionnelles.
Mais vous l'avez senti aujourd'hui, on fait plus attention à la dématérialisation parce qu'on s'est dit, bon, ça, il y a un côté un peu plus green.
Il faut reconnaître qu'effectivement, la dématérialisation aujourd'hui est mise en avant pour son a priori intérêt environnemental. On parle de concept de bureau sans papier, un paperless office. Ça fait des années qu'on en parle, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à mesurer de manière approfondie et objective, effectivement, s'il y avait un véritable avantage environnemental de ce type de système.
Et bien on va en parler tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. On reviendra plus sur cet aspect environnemental. Et je me tourne vers vous, Philippe Ballet. Donc je vous rappelle, vous êtes avocat au cabinet Alain Bensoussan. Vous êtes spécialisé sur tous ces sujets de dématérialisation. En un mot, si vous êtes là aujourd'hui à cette émission BFM Radio, c'est aussi pour nous dire la dématérialisation aujourd'hui, il faut y aller. Il faut plus se poser de questions. Il faut un peu tout un tas d'applications. On va voir lesquelles après.
Oui, bien, écoutez, je pense que le cadre légal, il a été profondément modifié dans l'année 2000, avec une réforme importante qui a été une réforme du droit de la preuve et qui a introduit également la signature électronique en France. On a effectivement, je dirais, des règles, des fondements juridiques qui ont été posés. Donc la dématérialisation, effectivement, c'est possible. Maintenant, il n'y a pas, si vous voulez, de réglementation générique en matière d'archivage électronique. Donc du coup,
il n'y a pas une loi comme ça qui tombe sur la dématérialisation.
Il n'y a pas une solution toute faite qui va dire à l'entreprise comment faire, que faire, combien de temps conserver. Donc ce sont des règles qui sont variables, notamment en fonction des secteurs d'activité. Donc il y a toute une analyse préalable à faire, et notamment une analyse de risque à conserver, mais également à ne pas conserver, bien sûr, et enfin à avoir un réflexe informatique à liberté, puisqu'il y a le fameux droit à l'oubli, et donc on ne peut pas conserver sans limitation de temps, donc des données à caractère personnel. Et c'est là d'ailleurs où cette problématique de conformité, elle rejoint une problématique qu'on rencontre sur le terrain, qui est une problématique, je dirais, de sécurité de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les données dans les serveurs débordent, et donc on a souvent effectivement des DSI qui appellent un peu au secours, parce qu'ils se retrouvent avec des contraintes, notamment de temps de restauration qui sont non contrôlées.
Et puis il faut les conserver. Eh bien, on va parler de tout ça pendant toute cette heure, dans toute cette émission de 01 Business sur BFM Radio. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de ces enjeux sur la dématérialisation.
BFM Radio, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotel.
On se retrouve sur BFM Radio avec nos invités pour parler des enjeux de la dématérialisation de documents. Et je vais passer la parole à Jean-Marc Rietsch, il est président de la FEDISA. Alors, on vous a invité aujourd'hui sur BFM Radio. Vous avez beaucoup de casquettes. Vous êtes un expert dans le domaine. Vous êtes à l'origine du premier badge. C'est le bilan d'aptitude délivré par les grandes écoles sur le thème management de la dématérialisation. Vous êtes co-auteur de livres blancs. ans. Vous avez travaillé avec le CIGREF, hein, qui est le club informatique des grandes entreprises françaises sur l'archivage électronique, la protection du patrimoine informationnel. Voilà, vous avez tout un tas. Vous êtes co-auteur aussi d'un guide pratique comprendre et utiliser les normes dans le domaine de l'archivage numérique. Donc on l'a compris, vous avez vraiment toutes les compétences pour nous parler de dématérialisation aujourd'hui. Mais moi je trouve qu'on souvent, alors parfois dans Zéro Informatique, mais même ici sur l'antenne de BFM Radio et dans Zéro Un Business, on réduit un peu trop souvent la dématérialisation seulement à la numérisation du papier. Et puis en fait, ça va beaucoup plus loin. Là, on l'a vu hein, il y a un instant avec Philippe Ballet, il y a des contraintes juridiques, enfin, il y a tout un tas de choses derrière tout ça.
Alors, je suis très content effectivement que vous introduisiez par là, parce que vous avez tout à fait raison. Souvent, on résume la dématérialisation et on la réduit à la simple numérisation des documents. Ce qui est très dommage. C'est vrai que c'est de la dématérialisation.
Le zéro papier, voilà.
Mais c'est le zéro papier. Mais en fait, la dématérialisation est là où il y a véritablement un enjeu d'entreprise. C'est effectivement pour la dématérialisation qui concerne les échanges, cette fois. Donc, le meilleur exemple, évidemment, c'est l'email. Et puis, là où il y a le plus à gagner en termes d'efficacité au niveau de toutes les organisations, quelles qu'elles soient, parce que c'est vrai pour le public également, c'est sur la dématérialisation des processus métiers. Et le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est la dématérialisation des factures. Mais là encore, il faut aller au bout de l'information. C'est tant les factures sortantes que les factures entrantes et avec une intégration complète dans le système d'information de l'entreprise, avec, je dirais, en corollaire, le zéro papier.
On en est où? Si on devait définir une échelle sur on parle des entreprises françaises, mais alors après c'est compliqué parce que selon les secteurs sont plus ou moins avancés. Mais on en est où de la dématérialisation aujourd'hui? On est plutôt dans une phase on est à mi-chemin, on est.
Je pense qu'on en est encore au tout début.
Au tout début.
Que ce soit effectivement en dématérialisation de processus ou en matière d'archivage électronique, puisqu'en fait, juste derrière la dématérialisation, se pose effectivement le problème de conserver ces données avec effectivement des contraintes qui sont essentiellement des contraintes juridiques, puisque la grosse difficulté qu'on va rencontrer, c'est effectivement lorsqu'on va amener des données électroniques devant une cour, faire en sorte que ces données soient recevables par effectivement le juge.
Philippe Ballet de cabinet Alain Bensoussan, c'est ça les freins aujourd'hui, enfin les contraintes de la dématérialisation, on est vraiment, les contraintes c'est juridique, c'est moins technologique.
Ouais, écoutez, je crois qu'il y a différents niveaux de contraintes. Il y a les contraintes juridiques, c'est partie effectivement de
ce c'est la principale aujourd'hui.
Je suis pas sûr. Je pense qu'en fait, c'est un sujet qui est quand même relativement complexe pour beaucoup d'organisations. Pour la bonne et simple raison, c'est que si vous voulez, au niveau des entreprises, pendant longtemps, je dirais, l'archivage papier était quelque chose qui était relativement bordé, et que avec l'explosion des volumes électroniques, qui s'est fait au détriment quand même du papier. Hein, je veux dire, il y a qu'à voir effectivement l'échange d'email qui a quand même largement remplacé l'échange de la correspondance papier. Eh bien, il n'y a pas eu de règles, il n'y a pas eu de réflexion au niveau des organisations. Donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec le constat, c'est les serveurs débordent, et donc il est évident que pour mettre en place effectivement de nouveaux processus, de nouvelles gouvernances en matière électronique, eh bien, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
De même on peut dire que la technologie, la technologie est allée plus vite finalement que les usages, parce que finalement, on dit les serveurs débordent, mais les serveurs, ils peuvent contenir, enfin, on achète maintenant un tera pour à peine 100 euros, donc on peut stocker. Les messageries, on ne peut plus concevoir, je dis, travailler sans le mail. On peut dire ça, non, technologie est allée trop vite.
La technologie, tout à fait, est allée trop vite. On dispose aujourd'hui de tous les outils technologiques pour finalement régler les problèmes en matière de dématérialisation. Ceci, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quand même des contraintes techniques auxquelles il faut quand même faire attention, ne serait-ce que sur le choix des formats qu'on veut utiliser. Donc je parle cette fois des formats logiques, c'est-à-dire utiliser soit du Word, soit du PDF, soit du JPEG, effectivement, dans la mesure où les données sont amenées à être conservées pendant un certain temps. Donc il faut quand même faire attention. Et il y a une grosse différence, je dirais, et là c'est un profond changement par rapport à de l'archivage papier. Ou l'archivage papier, un document papier, on a à la fois le support papier et le contenu informationnel. En électronique, c'est complètement différent. Il faut arriver à faire cette scission entre le support électronique, qui devient secondaire, par rapport à son contenu informationnel, qui plus est, n'est pas compréhensible directement par l'être humain que nous sommes.
Voilà, si on veut parler clair, c'est que dans certaines, je crois même pour nous tous, nos relevés bancaires doivent être, je crois, consultables pendant 10 ans, et il faut que dans 10 ans, on soit sûr qu'on puisse lire les formats formats Word ou je sais pas en quel format ça peut être enregistré,
oui, mais peu importe le format, mais c'est bien d'avoir effectivement à l'esprit que les octets qui sont finalement conservés sur les supports de stockage, c'est pas ce qui va nous permettre d'interpréter cette précieuse information. Donc il faut y faire attention.
Philippe Ballet de cabinet Alain Bensoussan, Donc aujourd'hui, vous êtes d'accord avec ce dit Jean-Marc Rietsch, on est au début du processus de dématérialisation?
Ah oui, je crois que quand on est sur le terrain, quand on voit les projets, effectivement, même si ça fait longtemps qu'on a mené des réflexions sur les problématiques qui sont liées à la preuve électronique, je veux pour preuve que les premiers ouvrages, ils doivent dater de 1990. La première norme, notamment, c'était une norme française qui concernait la copie fidèle et durable. Sa première version datait de 1999. Et vous voyez, ça remonte à pas d'hier, comme dirait l'autre. Et bien, les projets, si vous voulez, sur lesquels on travaille aujourd'hui, je dirais, c'est des projets qui remontent à peu près à un an et demi maximum.
Donc, et qu'est-ce qui a été l'élément un peu déclencheur de pourquoi
alors je crois qu'il y a deux moteurs en fait. En tous les cas, ce que je constate de mon côté, il y a soit effectivement des projets qui sont pilotés par la conformité ou ce qu'on appelle la compliance. Donc là, effectivement, vous avez par exemple les prestataires de services d'investissement. Donc ce sont des activités extrêmement régulées, notamment les prestataires qui sont agréés par l'AMF. Et donc vous avez des dispositions très spécifiques dans le règlement général de l'AMF qui vous oblige à enregistrer vos activités et à conserver ces enregistrements pendant une durée minimale de 5 ans.
Donc là, on est obligé.
On n'a pas le choix, je dirais. De toute façon, on est obligé de le faire. Et donc, on ne se pose pas la question de savoir quel est le coût. Est-ce qu'il y aura un avantage derrière? Est-ce que je peux le faire ou ne pas le faire? De toute façon, on n'a pas le choix, il faut y aller. Et puis, je dirais, il y a l'autre cas de figure que je citais tout à l'heure, qui est l'entreprise qui, notamment dans le secteur des assurances, aujourd'hui, qui en fait est confrontée à une problématique de maîtrise de la volumétrie des données. Donc très simplement, donc vous avez des gens qui font effectivement des audits, notamment de sécurité informatique. Dans le cadre de ces audits, eh bien, on s'aperçoit que lorsqu'on veut mettre en place donc le plan de reprise sur activité, on va devoir déterminer le temps de reprise sur activité et que ce temps de reprise sur activité dépend évidemment de la volumétrie des données. Autrement dit, il faudra pouvoir restaurer ces données. Mmh. Et bien évidemment, à partir du moment où vous n'avez plus de maîtrise sur liée à une augmentation exponentielle de la volumétrie de données, et bien vous êtes dans une situation de risque, ou en tous les cas d'inconnu, parce que vous ne savez pas déterminer quel temps sera nécessaire pour cette reprise d'activité. Donc voilà les deux moteurs principaux.
Jean-Marc Rietsch, où est-ce qu'il y a des pistes, enfin, dans quel domaine on doit encore faire des progrès sur des matérialisations?
Je pense que le principal progrès, c'est au niveau de l'information à donner aux entreprises, entre autres, et puis à toutes les organisations qui sont susceptibles de mettre en place cette dématérialisation et arriver à leur faire comprendre que, encore une fois, la dématérialisation est un sujet qui dépend de la direction générale, qui est un sujet stratégique parce que les enjeux sont énormes derrière. Et là, je reprends effectivement un des thèmes qui avait été abordé au cours d'un de nos congrès au niveau de FEDISA.
Oui, d'ailleurs, on va le signaler rapidement pour les auditeurs de BFM Radio. Vous avez un autre congrès sur le 26 janvier.
Le 26 janvier, tout à fait. Le 26 janvier, sur ces thèmes, effectivement, de l'environnement et de la certification d'un système d'archivage électronique. Mais là, je faisais référence au congrès de 2008, où Alain Juillet, qui à l'époque était le haut responsable à l'intelligence économique, précisait bien que la sécurité informatique, et quelque part la dématérialisation qui est à l'intérieur de ça, n'était qu'en fait l'étape indispensable pour aller plus loin, c'est-à-dire transformer l'information en connaissance. Et cette transformation de l'information en connaissance, ça va permettre quoi? Ça va permettre, entre autres, d'innover et de rester compétitif, je dirais, sur un marché qui, aujourd'hui, au niveau mondial, devient de plus en plus difficile, en fait.
Donc, on a des contraintes juridiques, il y a des contraintes d'organisation, si je suppose, dans les entreprises, elles ne sont pas forcément habituées à... il y a des process qui changent...
C'est la dernière contrainte, et c'est effectivement quelque chose qui est très important, mais qu'on rencontre dans d'autres projets, qui est effectivement la conduite du changement. Parce que forcément, là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être remises en cause. Donc il faut effectivement y aller progressivement et surtout bien expliquer, je dirais, à l'ensemble des services de l'entreprise, ce qu'on met en place, pourquoi on le met en place et les côtés positifs de tout ce qu'on met en place par rapport à tout ça.
Et vous pensez que dans l'entreprise aujourd'hui, il faut un responsable, un patron de la dématérialisation, ou alors est-ce que ça doit être partagé entre le DSI, le DRH, quelqu'un à la direction générale, le directeur financier? Comment ça se passe? Que vous voyez aujourd'hui?
Une des explications justement au fait que la dématérialisation ne fait que démarrer aujourd'hui par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure. Comme on a besoin de plusieurs compétences, la personne qui aujourd'hui a l'ensemble de ses compétences dans l'entreprise n'existe pas réellement. Et c'est ce qui est d'ailleurs a déclenché la création du badge auquel vous faisiez référence tout à l'heure. Donc
le bilan d'aptitude
qui est en fait un demi-master exécutif pour faire plus court. C'est justement pour donner la formation et donner les compétences nécessaires à une personne qui va devenir responsable de la dématérialisation au sein d'une entreprise, sachant qu'on ne va pas transformer, je dirais, un ingénieur en avocat et réciproquement, mais c'est juste leur donner en fait les clés nécessaires pour être capable derrière de mener à bien les projets. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ça fait un peu peur dans l'entreprise parce qu'on ne sait pas par quelle boule empoigner.
Oui, c'est un peu ça. Et on est d'accord, après je reviendrai moins là-dessus, mais sur la partie technologique, on est à peu près calé, qu'on suit, les technologies sont là, et voilà, il n'y a pas de... Là, on parlait de signature électronique, de stockage, là, de ce côté-là, tout va bien. Ça fonctionne.
Au niveau technique, on utiliserait aujourd'hui toutes les techniques qui sont à notre disposition, je pense qu'on dirait autre chose de la démat.
Eh bien, on va continuer à parler de tout ça, puis on va parler de développement durable dans la seconde partie de l'émission. On se retrouve après le journal de l'économie avec tous nos invités pour parler de dématérialisation.
BFM Radio, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotel.
On se retrouve sur BFM Radio avec nos invités pour parler des enjeux sur la dématérialisation de documents avec Jean-Marc Rietsch, il est président de la FEDISA, Yannick Le Gouerne, qui est de la société Biointelligence Service, et Philippe Ballet, qui est avocat au cabinet Alain Bensoussan. Mais avant de retrouver notre débat, nous accueillons Élise Barbet, journaliste à la rédaction de Zéro Informatique. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Alors Élise, vous êtes un peu notre coup de griffe aujourd'hui. Parfois il y a des coups de cœur, mais aujourd'hui c'est un coup de griffe. Vous allez nous parler des effets négatifs de la dématérialisation, hein, c'est ça?
Et oui, Frédéric, on nous dit que la dématérialisation va limiter notre consommation de papier et sauver nos forêts, mais les habitudes ont du mal à suivre, hein, comme souvent quand de grands principes écologiques sont mis sur la table.
Et puis au final, on va peut-être avoir l'effet inverse de ce qu'on espérait, c'est ça?
Bien oui, par exemple, répondre aux appels d'offres des marchés publics peut augmenter singulièrement la consommation de papier, même si des formulaires existent pour y répondre, hein. Leur longueur incite souvent les vendeurs à tout imprimer, puis à y répondre à la main, à l'ancienne, comme disent certains, avant de scanner toutes les pages pour finalement y répondre électroniquement.
Et le processus ne s'arrête pas là, hein.
Bah, si ça s'arrêtait là, on aurait au moins rien perdu, mais à l'autre bout de la chaîne, l'acheteur a souvent tendance à imprimer les offres reçues.
Aussi.
Voilà, et oui, pour les lire, hein, c'est plus facile.
Donc tant que 100% des demandes ne sont pas dématérialisées, voilà, j'ai au moins chuté une fois, gérer le mix entre justement c'est électronique et papier, ça devient compliqué.
Ça peut être problématique, oui, le comptable finit parfois par exiger de récupérer une version papier, et cela ajoute une complexité étant donné que seul un original papier transmis et signé par l'entreprise à valeur légale. Alors l'entreprise qui a eu la bonne volonté de répondre de manière électronique se voit donc demander au final une version papier de sa demande. On est proche de l'absurde.
Et donc finalement le frein principal à la dématérialisation, c'est quoi alors?
C'est cette situation paradoxale qui constitue un frein au développement de la dématérialisation. On a d'un côté la loi et ses décrets d'application qui reconnaissent le document électronique et qui autorisent donc son utilisation depuis plusieurs années. Et de l'autre, son application reste réduite et de nombreuses administrations continuent à exiger des documents papier, notamment lors du contrôle des entreprises.
Et puis sans parler d'arguments écologiques, on en a parlé au début de cette chronique.
L'argument de l'économie de coût peut être discutable, hein, parce que tout le monde aujourd'hui peut archiver du papier. Donc quand on dit qu'il va falloir archiver du numérique pour le ressortir dans 10 ans, les entreprises ne savent pas faire. Et c'est difficile à faire soi-même. Et si on ne le fait pas soi-même, il faut le faire par des tiers archiveurs et ça coûte plus cher.
Eh bien, on va voir avec nos invités les effets. Merci Élise Barbet pour ce coup de griffe, hein, ce côté un peu effet négatif. Et on va revoir avec nos invités si effectivement comment on y répond à ces effets négatifs et voir quels sont les effets positifs. Alors je vais peut-être démarrer juste sur... Cet aspect de ces appels d'offres qu'on doit réimprimer, tout ça, Philippe Ballet, vous le constatez, vous êtes chez Alain Bensoussan, quand vous êtes avec des clients, ils réimpriment tout, il faut tout.
Écoutez, je ne suis pas toujours derrière les clients pour voir ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, mais ce qui va se produire probablement, c'est qu'on en est quand même au début. Hein. Il faut bien voir une chose, c'est que la réforme des marchés publics, même si c'est pas, ça ne date pas d'hier, là encore, je dirais à partir de 2011 et 2012, donc certaines entités adjudicatrices, comme on les appelle, auront la possibilité, notamment pour les marchés informatiques, d'imposer la procédure uniquement dématérialisée. Donc là, si vous voulez, si vous commencez à gérer du papier, comme je l'ai entendu, imprimé, renumérisé, et également donc, du support ou de l'information sous forme électronique, je souhaite bien du courage. Donc il y a fort à parier qu'on va se prendre les pieds dans le tapis et qu'on n'y retrouvera pas nos petits.
Alors Yannick Le Gouerne de Biointelligence Service, on vous a entendu très rapidement au début de l'émission. Alors juste, on va parler avec vous justement de cet argument écologique, développement durable et puis réduction de coûts, parce que ça en fait partie. Deux mots sur Biointelligence Service pour un peu vous situer par rapport aux les auditeurs de BFM Radio puissent vous connaître.
D'accord, alors Biointelligence Service, c'est une société de conseil en environnement développement durable qui vient de fêter ses 20 ans, là, il y a quelques semaines, et qui est spécialisée dans la mesure des impacts environnementaux des produits et des services, dans un but notamment de pouvoir identifier les axes de progrès, d'améliorer la qualité environnementale de ces produits et de ces services, et de pouvoir communiquer sur ces avantages environnementaux.
Alors vous existez depuis 20 ans, mais oui. depuis 2 ans, donc vous exposez un peu, non?
Enfin, il faut reconnaître qu'effectivement, depuis quelques années, c'est une thématique et des questions qui sont très fréquentes, et du coup, effectivement, ça se traduit par une activité qui est croissante de l'autre côté.
Alors, on parlait de cet argument environnemental, on l'a rapidement dit au début de l'émission, oui, aujourd'hui, c'est ça qui peut faire basculer un peu plus les gens dans ce côté de dématérialisation. On le voit, on a souvent un petit message à la fin de son mail, attention, pensez, est-ce que vous avez vraiment besoin d'imprimer cet email-là? Vous sentez qu'il y a un vrai engouement autour de ça, enfin que les gens font plus attention?
Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a un véritable engouement autour de la dématérialisation. Après, je dirais, ça dépend des secteurs d'activité, puisque pour revenir à votre question principale, est-ce que finalement c'est le critère environnemental qui va permettre justement de passer à l'acte en termes de dématérialisation? Je dirais, c'est notamment vrai dans le domaine, par exemple, de la communication, de l'événementiel, ou quand vous allez à un colloque ou à un événement, on vous remet des documents sous forme d'une clé USB. Alors, on s'écarte un petit peu du système via le réseau Internet. Mais c'est vrai qu'on le voit souvent utilisé, donc avec un atout écologique qui est indiqué, vous ne consommerez pas de papier.
Et les mauvais élèves, ce sont qui?
Alors, je sais pas, là. Autant c'est vrai que le secteur de la com, bon, il est reconnu là-dessus, mais les mauvais élèves, non, je ne les connais pas sur ce sujet-là.
J'allais dire l'administration qui est toujours plein de papiers, mais finalement, ils avancent plus vite. On a l'impression qu'ils avancent plus vite. On voit à titre individuel, il y a les déclarations des impôts. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut maintenant dématérialiser.
Tout à fait, mais je pense que le premier critère qui permet justement de lancer tous ces systèmes dématérialisés, ça, je pense que Jean-Marc Rietsch l'expliquera mieux que moi, c'est surtout dans un but de faciliter les opérations. On a parlé des réponses aux appels d'offres publiques. C'est vrai que quand on répond uniquement sur du format papier, il y a un volume de documents qui est très, très important à fournir. Donc, je pense que c'est surtout dans un objectif de simplification des procédures.
Et est-ce qu'aujourd'hui, alors des sociétés comme la vôtre, ou vous-même, quand vous agissez en conseil dans des entreprises, est-ce que vous savez évaluer les impacts environnementaux? Enfin, comment vous calculez ça? Non, on peut dire, on va moins imprimer, mais est-ce qu'en faisant tourner plein de machines qui vont scanner, qui vont faire tourner les réseaux, on va peut-être consommer plus d'électricité en faisant tourner ces machines? Enfin, comment ça se passe? Racontez-nous.
Alors, effectivement, il faut, quand on veut évaluer les impacts environnementaux d'un système dématérialisé ou non, un système concurrent comme par exemple le papier, il faut avoir une approche qui soit vraiment globale, une approche sur le cycle de vie de ces produits, depuis la production des matières premières jusqu'aux déchets du produit en tant que tel, et de mesurer tous les flux de matières qui sont consommés à chacune de ces étapes du cycle de vie, et toutes les émissions de polluants également dans l'eau, dans l'air et dans les sols. Donc pour faire ça, il y a une méthode qui s'appelle l'analyse du cycle de vie, qui est une méthode justement normalisée et qui permet de quantifier de manière globale les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service. Et c'est ce type de méthode-là qui permet effectivement d'objectiver l'intérêt ou non d'un système dématérialisé par rapport à un système traditionnel.
Et ça, c'est les méthodes qu'on trouve à travers des cabinets comme le vôtre, il y a un nom, cette méthode-là. Si un auditeur de BFM Radio veut se renseigner...
Je vais
rappeler votre société qui est Bio-Intelligence
Service. Donc, voilà. Bien, dans un premier temps, s'il souhaite avoir des informations, il peut nous appeler, nous contacter, et on n'hésitera pas à lui répondre. Maintenant, on peut trouver, il y a des normes même internationales ISO sur lesquelles on peut savoir dans le fond quel est le cadre méthodologique qui permet de faire ces diagnostics environnementaux. Et puis on peut trouver aussi tout un tas d'informations, comme par exemple sur le site de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, où tout ça c'est très bien expliqué.
Alors je me tourne vers Philippe Ballet, avocat au cabinet Alain Bensoussan. Je parlais des mauvais élèves. Est-ce que les jurys sont parfois des mauvais élèves? Non, on voit tous ces dossiers qui s'empilent, on entend tous ces procès partout. Et alors, je sais pas, alors là, vous, alors je vais peut-être moins parler aux spécialistes de la dématérialisation, mais plus à l'avocat dans votre profession. Est-ce que vous faites attention donc à la dématérialisation, mais est-ce que ce côté environnemental, ça vous titille? Voilà, vous y pensez?
Alors je dirais, pour être honnête, j'y pense et puis j'oublie, mais c'est sûr que le fait de dématérialiser les documents, ça implique effectivement l'impression des documents, puisqu'à un moment vous avez besoin de consulter des documents, et c'est vrai que la lecture à l'écran elle n'est pas toujours suffisamment ergonomique pour s'en satisfaire.
Et puis il faut toutes les méthodes collaboratives, si vous devez donner le dossier à quelqu'un,
ça c'est un autre aspect des choses. Maintenant, ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que on parlait des normes tout à l'heure, donc là on aura probablement l'occasion d'y revenir tout à l'heure en fin d'émission, mais je crois qu'on parlait des méthodologies, notamment en matière d'analyse du cycle de vie. Et Jean-Marc en parlait tout à l'heure à propos du cycle de vie de l'information, et qui est assez essentiel en matière d'intégrité de l'information. Là aussi, on a des normes qui existent et donc qui permettent qui donnent en fait une méthodologie pour mener à bien un projet d'archivage électronique. Ça, c'est le deuxième aspect des choses. Le troisième, c'est en ce qui concerne effectivement les risques. ou les contentieux, eh bien oui, on a de la jurisprudence en la matière, notamment sur le défaut d'archivage. Alors sur des secteurs d'activité un peu particuliers, c'est toujours pareil, notamment dans le domaine bancaire, dans le domaine hospitalier également. Donc vous avez notamment dans l'affaire du sang contaminé, c'est assez remarquable de voir qu'effectivement le défaut d'archivage partiel a pu effectivement conduire à des condamnations faute de pouvoir renverser la charge de la preuve. On était dans un contexte législatif très particulier, mais un qui peut peut-être toucher davantage d'auditeurs ce soir, c'est notamment l'hypothèse d'une banque qui, en l'occurrence, visait à opposer donc l'existence d'un prêt à une débitrice. Donc la banque n'avait pas conservé le contrat de prêt et ne produisait qu'une photocopie. Donc la cour d'appel a décidé que cette photocopie effectivement ne répondait pas à l'exigence de fidélité, de durabilité du code civil. Donc il s'agissait d'un simple commencement de preuve. La débitrice a nié donc l'existence de sa signature. Donc la banque a argué du fait que la débitrice avait commencé à rembourser le prêt pour dire, bah, vous voyez, vous reconnaissez bien l'existence du prêt. Et là, patatras, la Cour de cassation, le 13 novembre 2008, censure la décision de la Cour d'appel en disant, vous avez renversé la charge de la preuve, c'est bien à la banque de démontrer la réalité, donc d'apporter la preuve de l'existence de ce prêt. Donc on est bien sur une problématique d'archivage à valeur probatoire.
Donc pour la banque,
et donc, le fait de ne pas être capable de produire le contrat, de produire qu'une photocopie qui ne répond pas à ses exigences de fidélité et de durabilité, c'est donc pas une preuve. Donc, circulez, vous retournez à la case départ.
Et donc, la débitrice est partie avec sans doute son argent, on imagine qu'elle...
Je ne connais pas exactement la fin de l'histoire.
Alors, je reviens sur cette partie environnementale, Jean-Marc Riedge, le président de la FEDISA. Vous pensez ce que vous voyez aujourd'hui, il y a un vrai impact quand vous êtes... avec des gens de votre fédération, certains clients, cet impact environnemental sur la dématérialisation, ça force à bouger.
Alors aujourd'hui, on en parle. Par contre, il faut rester extrêmement prudent. C'est-à-dire que j'aurais tendance à dire démarrer un projet de démat au seul prétexte qu'il va y avoir un impact sur l'environnement, il y a un véritable danger. Mm-hmm. Le fait de dire il peut y avoir des impacts sur l'environnement, oui. Mais je pense que c'est pas ça qui doit être moteur du projet de démat. Le projet de dématérialisation, le véritable moteur, c'est celui que j'ai exposé tout à l'heure, c'est l'enjeu et la compétitivité de l'entreprise demain.
D'accord, ça vient se rajouter. Quoi.
Ça vient se rajouter. C'est un plus. Par contre, ce qui est important de signaler, c'est effectivement aussi dans la façon de gérer le projet, intégrer le plus tôt possible cet impact potentiel au niveau de l'environnement, qui peut amener, je dirais, en cours de projet de dématérialisation ou d'archivage électronique, à choisir une solution plutôt qu'une autre.
D'accord. Donc
avec un même résultat.
C'est l'un des critères de choix. Voilà. Eh bien, on va se retrouver dans un instant sur BFM Radio avec nos invités pour continuer à parler des enjeux de la dématérialisation. Et on quitte un instant notre débat sur BFM Radio sur la dématérialisation. Retrouvez Élise Barbet, journaliste à la rédaction de Zéro Informatique, pour notre séquence coup de pouce à une start-up. Alors Élise, vous avez en ligne Hervé Pro, il est président de Simeos. Alors c'est une start-up spécialisée dans la gestion d'identité. On va parler de sécurité.
Oui Frédéric, on parle de sécurité et d'authentification forte. Alors j'ai donc en ligne Hervé Pro, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez mis en place une solution d'identification unique et forte sur téléphone mobile via votre produit qui s'appelle Ego. Alors expliquez-nous ce que vous entendez par identification unique et forte.
Alors, l'authentification unique, c'est le fait de disposer d'un mot de passe à usage unique. Donc, c'est un mot de passe qui varie en permanence et qui n'est pas détectable. Et l'authentification forte, en fait, c'est le fait que ce mot de passe ne soit pas rejouable.
Alors, une fois que vous êtes reconnu sur un site, ça peut être votre banque, vous pouvez aussi vous rendre sur d'autres sites tout en étant reconnu. Donc, vous avez choisi de vous fonctionner sur un modèle de partenariat.
Exactement, tout à fait. On a choisi dans la solution de coupler donc deux technologies qui sont liées à l'identification, qui sont effectivement l'authentification forte et surtout l'authentification unique. L'authentification unique étant le fait de pouvoir, une fois que je me suis authentifié de manière forte, donc d'être reconnu, de pouvoir naviguer librement sur Internet au travers des sites partenaires que peuvent être les banques, par exemple, de pouvoir être reconnu et donc de ne jamais avoir besoin de retaper mes codes et de repasser par une procédure d'authentification.
Les autres solutions reposent plutôt sur des boîtiers. Et vous, l'aspect innovant aussi de la vôtre, c'est qu'elle repose sur le fait que vous utilisez le téléphone mobile, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Le choix... économique et écologique, on va dire, c'est d'avoir recodé en fait ce que fait exactement un boîtier aujourd'hui dans les solutions du commerce, de l'avoir implémenté sur un téléphone mobile qui dispose des mêmes caractéristiques, si ce n'est que sur un téléphone mobile, on dispose, on va dire, des performances du téléphone mobile et de la taille de l'écran, enfin d'une visibilité, on peut faire beaucoup plus de choses.
Et forcément, c'est un matériel qui ne nécessite ni déploiement, ni maintenance, donc ça, forcément, la solution revient moins cher.
Tout à fait.
Eh bien, merci Hervé Pro. Vous êtes, je le rappelle, président de Simeos, une start-up que vous pouvez retrouver dans 01 Informatique.
Merci Élise Barbet, journaliste à la rédaction de 01 Informatique. On se retrouve tout de suite sur BFM Radio avec nos invités pour poursuivre notre débat sur la dématérialisation.
BFM Radio, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotel.
Encore quelques minutes pour continuer à parler des enjeux de la dématérialisation avec nos invités Jean-Marc Riedge, président de la FEDISA, Yannick Le Guern de la société Bio Intelligence Service et Philippe Ballet, avocat au cabinet Alain Bensoussan et spécialisé dans tous ces enjeux de la démat, hein, comme on dit dans le secteur. Alors tout à l'heure avec Yannick Le Guern, on a abordé toute cette partie de l'impact environnemental et justement si on fait un état de l'art des connaissances environnementales sur la dématérialisation, est-ce que vous, Yannick Le Guern, vous avez l'impression que les gens se rendent bien compte de tout ça?
Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, je fais écho à ce que disait Monsieur Lallet tout à l'heure.
Philippe Ballet.
C'est un sujet qui est très nouveau et du coup les connaissances commencent à venir, mais c'est un sujet qui est traité depuis, j'ai envie de dire, 5 ou 6 ans peut-être maximum. Donc on a une vision, on commence à avoir une vision des enjeux environnementaux, mais il faut encore la préciser. Typiquement, les études qu'on a pu recenser et qui traitaient de ces problématiques-là, on met en évidence 3 grands types d'enjeux, hein, sur le cycle de vie de cette information dématérialisée. Un premier enjeu, c'est un enjeu lié aux équipements électriques et électroniques qui fait notamment appel à beaucoup de métaux précieux et on sait qu'il y a des réserves de certains de ces métaux qui s'épuisent terriblement. À titre d'information, on estime que à l'heure actuelle, 15% de la consommation de zinc en Europe est dédiée justement au secteur des produits électriques et électroniques. Une autre étude intéressante qui a été conduite aux États-Unis il n'y a pas très longtemps a évalué que dans le stock des produits électriques et électroniques uniquement sur le Japon, on avait 6800 tonnes d'or qui étaient contenues dans ces produits-là. Et on pourra en citer tout un tas d'autres. Donc il y a déjà cet enjeu à l'étape de production sur l'épuisement de ces substances rares, ces métaux rares. Il y a un enjeu bien évidemment aussi au niveau de la phase d'utilisation, parce que ces appareils-là, et on sait maintenant, les data centers sont très consommateurs d'énergie, et une étude que nous avons conduite pour la Commission européenne en 2008 a mis en évidence qu'en 2005, le secteur des NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, aurait généré environ 2% des émissions de gaz à effet de serre via cette consommation d'énergie.
Et puis bien évidemment,
il y a une problématique aussi liée à la fin de vie de ces produits électriques et électroniques. Il y a d'ailleurs des réglementations qui ont été mises en place depuis quelques années maintenant pour pouvoir traiter ces produits en fin de vie. Donc voilà ce que l'on sait sur les impacts environnementaux de ce secteur-là. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit aussi, c'est un secteur qui est en très très forte évolution. On parle beaucoup d'amélioration de l'efficacité énergétique dans les data centers, etc. Donc ce que je viens de dire, dans un an, ce sera peut-être plus vrai. Les choses auront changé.
Donc là, il y a un projet qui a été lancé par l'ADEME. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire dans les grandes lignes?
Oui, tout à fait. Alors effectivement, l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie vient de lancer une étude justement pour pouvoir comparer les impacts environnementaux de différents systèmes dématérialisés par rapport à des systèmes traditionnels. Donc c'est une étude d'analyse de cycle de vie, la méthode que j'évoquais tout à l'heure qui va être employée. L'idée, c'est d'améliorer justement les connaissances, de faire une étude très approfondie sur ces sujets-là pour améliorer notre connaissance. Parce que
ils le font dans l'entreprise, dans les administrations, voilà, c'est un peu...
Alors, il faudra, on est vraiment au tout démarrage de la mission, donc il faudra effectivement qu'on définisse les scénarios qui soient les plus représentatifs de systèmes dématérialisés, de systèmes traditionnels, pour pouvoir avoir une photographie qui soit la plus représentative possible de ce qui se passe actuellement dans les entreprises ou dans les administrations. On essaiera de trouver le système qui colle le mieux à ces deux types de profils.
Et alors Yannick Le Guern, donc vous êtes spécialisé dans tous ces impacts environnementaux. Est-ce qu'il y a des exemples à suivre? Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus avancés que nous? On parle souvent des pays d'Europe du Nord.
À ma connaissance, pas forcément, parce que ce qu'ont mis en évidence les analyses de cycle de vie qui sont déjà disponibles sur ce sujet-là, c'est que finalement on a souvent des résultats qui sont presque contradictoires. Ça dépend. Il y a des fois des ACV qui disent la dématérialisation c'est mieux que un système traditionnel type papier, puis vice versa, puis des études qui sont beaucoup plus nuancées. Ça tient au fait que cette méthode-là est très très sensible aux données, au contexte dans lequel elle s'inscrit. Typiquement, le modèle électrique de production en France qui est très faiblement émetteur émetteurs d'émissions de CO2 pourra aller à l'avantage de la dématérialisation, ce qui n'est pas du tout le cas dans un autre pays. Donc pour l'instant, on ne sait pas justement s'il y a un véritable avantage, d'où l'objectif de l'étude de l'ADEME.
Et on aura quand les conclusions de ce projet?
Alors, normalement, l'étude doit terminer fin février 2010. Après, quand les résultats seront communiqués, ça je ne sais pas, il faudra voir du côté de l'Agence de l'Environnement.
Eh bien, en tout cas, on va suivre ça en tout cas sur BFM Radio. Alors, on a parlé de cet aspect impact environnemental. Moi, j'aimerais qu'on revienne avec vous tous sur la partie réglementation. Est-ce que vous pensez que pour ce qu'on veut passer, alors tout dématérialiser, c'est peut-être un grand mot, mais il faut un peu plus de réglementation. Je sais pas, Jean-Marc, est-ce qu'il faut plus de lois, plus de réglementation? Faut vraiment forcer la main aux entreprises ou aux administrations?
Je dirais aujourd'hui, les réglementations pourraient effectivement aider peut-être à sensibiliser les gens, mais je ne suis pas intimement convaincu que ce soit nécessaire. On peut prendre des exemples de nos voisins, où par exemple les Espagnols ont une loi qui existe aujourd'hui, qui impose en fait la dématérialisation de toute l'administration à horizon 2010. Donc c'est quand même très fort et c'est très volontaire. Et derrière,
c'est très proche aussi.
Et derrière ça, il est important également de préciser qu'à partir du moment où un processus sera dématérialisé, l'ancien processus disparaîtra. Donc ça veut dire qu'il y a une véritable volonté effectivement d'aller vers la dématérialisation. Donc je pense plutôt que de mettre des réglementations, parce que je pense qu'on en a déjà beaucoup, que ce soit en France ou même à l'étranger, plutôt aller vers justement une idée de volontariat et de montrer l'exemple. Finalement, ce qu'exposait tout à l'heure effectivement Philippe Ballet.
Voilà ce que vous disiez tout à l'heure Philippe Ballet du cabinet à la Bonne Soussan, justement plus de réglementation, tu tuerais un peu peut-être la...
Bah écoutez, je sais pas si les gouvernants raisonnent toujours dans les mêmes termes, je suis même loin d'en être convaincu, mais je vais donner deux exemples. D'abord, le premier, ça vient des États-Unis, c'est notamment la réforme de la procédure civile américaine qui a été conduite fin 2006, et c'est un exemple qui est intéressant parce que quand même c'est un domaine dans lequel les États-Unis ont une nouvelle fois pas mal d'avance sur l'Europe. Ça concerne donc la réforme de la procédure civile qui impose donc aux entreprises qui détiennent ce qu'on appelle Electronic Stored Information, donc de produire cette information dans le cadre de contentieux civils dans un délai raisonnable. Donc ce que je sais, c'est que actuellement l'Australie, le Canada et la communauté européenne réfléchissent donc à doter donc l'Europe notamment d'une législation analogue. Donc inutile de vous dire que si c'est ça, ça va effectivement non pas ajouter véritablement une nouvelle contrainte, ça a simplement obligé les entreprises à se structurer et à se doter d'une politique d'archivage électronique. Donc ça, c'est le premier.
Donc il faut vraiment, pour les auditeurs de BFM Radio qui se posent des questions sur des projets qui sont lancés, il faut vraiment réfléchir aussi au niveau international. Il faut regarder ce qui peut se faire dans les autres pays. On va être confronté à ces problèmes un jour ou l'autre parce qu'on est en lien avec ces pays, justement.
Bien sûr, puis ça a un avantage aussi d'avoir un petit peu de retard, c'est que ça permet d'éviter de reproduire éventuellement les erreurs des autres. Donc il y a toujours des enseignements à tirer du passé. Et puis je crois que de toute façon, il faut reconnaître une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même un domaine dans lequel, effectivement, quand on voit ce qui se passe notamment sur les marchés financiers, sur lesquels la doctrine américaine, notamment la doctrine de la SEC, a quand même pas mal d'avance par rapport à ce que je connais en France.
Donc voilà, il y a quelques exemples à suivre. Jean-Marc Rietsch, si on parle toujours au sujet de cette dématérialisation, aujourd'hui dans les directions informatiques, enfin même dans les directions des entreprises, on est lancé dans des processus de réduction de coûts. Est-ce que il est vrai de dire que la dématérialisation, c'est forcément, on réduit forcément ses coûts avec la dématérialisation? Est-ce que les avantages sont tout de suite, les bénéfices sont tout de suite financiers ou pas?
Alors, il faut être très prudent. Il faut être très prudent.
Vous êtes prudent, vous. Hein,
oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'effectivement, tout à l'heure, je fais juste un petit retour en arrière par rapport à la dématérialisation des appels d'offres dans le domaine du public. Ça m'amène une réflexion qui est quand même importante. C'est qu'aujourd'hui, on tombe souvent dans un travers qui consiste à dématérialiser à l'identique de ce qui existait, je dirais, dans le format papier. Mm-hmm. Et je pense que quelque part, c'est une profonde erreur.
Ah oui, on prend c'est le process qui existe erreur. Et on copie, voilà. Et on dit voilà.
Voilà. Et résultat, on arrive effectivement à des aberrations qui ont été clairement exposées tout à l'heure. Voilà.
On a pris
pourquoi? Parce qu'effectivement, la démat a des avantages, le papier a des avantages, donc ce qu'il faut, c'est tirer le maximum de chacun. Et avant, effectivement, de décider de dématérialiser un processus, l'idée, c'est de réanalyser complètement ce processus pour voir dans quelle mesure l'usage des nouvelles technologies, donc dématérialisées, l'électronique, peuvent effectivement aider à corriger ce processus, à le rendre plus efficace et à supprimer le papier.
Et là, vous avez des exemples. Tout à l'heure, on parlait de facturation. Est-ce que dans ce domaine-là, il y a des exemples concrets?
Alors, dans la facture, aujourd'hui, c'est pareil. En France, on sait dématérialiser la facture sortante au sens fiscal du terme. Mm-hmm. Aujourd'hui, on sait, je dirais d'un point de vue technique, la dématérialiser en entrée. Donc, cette fois, on prend du papier et on la numérise. Par contre, on est toujours bloqué dans le sens où on est obligé de garder le papier. Donc vous avez un double coût. Quand on parle effectivement donc de la rentabilité d'opérations de dématérialisation, il faut faire attention, il faut aller au bout, je dirais, du raisonnement.
Donc on peut dire les grandes tendances, Jean-Marc Ries de la FEDISA, les grandes tendances à venir autour de la dématérialisation, c'est presque plus au niveau de ces processus plutôt qu'autour des technologies. Enfin, bien sûr, les technologies vont continuer à avancer, mais la réglementation va évoluer. Mais c'est vraiment les processus des entreprises où là il y a vraiment des choses à faire.
Oui, je reste intimement convaincu, et je suis pas le seul, que c'est une remise en cause de l'organisation du système d'information des entreprises qui doit être analysée. Et c'est la difficulté aujourd'hui. Et vous évoquiez tout à l'heure le problème de l'étranger. Au niveau de FEDISA, on a créé d'ailleurs FEDISA International à cause de ça. C'est effectivement de profiter des erreurs et voir effectivement des choses aussi qui fonctionnent bien chez nos voisins pour essayer de donner un maximum d'informations aux entreprises pour avancer sur le thème de la dématérialisation. Et à partir du moment où on identifie des points de blocage, parce qu'il y en a quand même, faire en sorte de les lever le plus rapidement possible.
Eh bien, vous voulez un dernier mot, Philippe Ballet?
Non, mais je crois que pour résumer, aujourd'hui, le cadre réglementaire, il permet de dématérialiser, notamment, c'est le cas en matière de comptabilité informatisée, hein. Encore une fois, ça n'aide pas d'hier non plus. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une analyse, effectivement, on parlait d'analyse de la valeur à faire tout à l'heure, il y a une analyse à mener, effectivement, et qui implique de réfléchir au processus, et c'est à partir de cette réflexion qu'on pourra éventuellement déterminer un ROI sur un projet de dématérialisation.
Voilà, il faut pas tout faire tout n'importe comment. Eh bien, merci à tous pour vos interventions brillantes. J'espère qu'avec vous, les auditeurs de BFM Radio, ont une vision plus claire des enjeux de la dématérialisation de documents. Si vous avez manqué le début de l'émission, elle est en podcast sur bfmradio.fr. Merci à nos trois invités, Jean-Marc Rietsch, président de la FEDISA, Yannick Le Guern, manager chez Biointelligence Service, et Philippe Ballet du cabinet Alain Bensoussan. Merci à Élise Barbet, Yann Serra, nos chroniqueurs de Zéro Informatique. Merci à Hervé Pro de la société Simeos, notre start-up de la semaine. Vous retrouvez tous ces sujets dans le journal Zéro Informatique ou sur le site 01netpro.com. À la semaine prochaine.
01 Business avec Intrinsèque, l'infogérance en demande pour la qualité de vie des DSI.